SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
Vous êtes avec SBS French.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Thierry Cliffa pour peut-être l'un des films, voire le film le plus marquant qui a été présent au Festival du film français de l'Alliance française cette année. Thierry Cliffa, bonjour, vous êtes là pour nous parler du film La femme la plus riche du monde.
Oui, bonjour, merci toi. je prends.
C'est un film, c'est un film marquant parce que c'est un film qui a été vraiment très apprécié ici par le public. Pendant le festival, donc il sort maintenant sur en sortie nationale, voilà, c'est ça le mot. Oui. Parlez-nous en quelques mots cette histoire, parce que c'est l'histoire de Madame Bettencourt, sans vraiment être l'histoire de Madame Bettencourt. Enfin, c'est profondément inspiré et peut-être profondément inspiré par votre vie antérieure de journaliste aussi.
Alors ma vie de journaliste, elle était concentrée sur le cinéma, c'est-à-dire que c'était j'étais journaliste de cinéma, donc j'ai vraiment fait que ça. Après, là où mon talent entre guillemets de journaliste, enfin mes qualités de journaliste m'ont aidé, c'est qu'effectivement j'ai beaucoup cherché, enquêté, essayé de comprendre, et je me suis aperçu que cette histoire, elle avait été beaucoup racontée par la fin, mais jamais par le début. Donc déjà c'était une première piste, et que les principaux protagonistes avaient été réduits un peu à des caricatures, c'est-à-dire la milliardaire esselée, le photographe Picassiette, et puis la fille mal aimée. Et j'ai donc essayé non pas de les réhabiliter, mais de les montrer autrement. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces trois caricatures ? Et en prenant l'histoire par le début, en passant par l'intime, en entrant là où aucun journaliste n'avait pu pénétrer, ça m'a donné un angle par rapport à cette histoire, à ce qui avait déjà été raconté.
Ce qui est extraordinaire, déjà, c'est le casting. Bon, on va en parler aussi, bien entendu. Il y a Isabelle Huppert qui est radieuse dans ce film. Il y a Laurent Lafitte qui est incroyable. Enfin, c'est vraiment deux rôles principaux. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, c'est ce que vous venez de dire. C'est qu'en fait, on voit l'histoire, mais du côté donc de la milliardaire qui c'est une histoire beaucoup plus positive qu'elle l'est, en fait, qu'elle l'a été dans l'actualité, dans les journaux, et peut-être même dans les séries et les autres éléments qui ont été faits auparavant.
Oui, mais c'est-à-dire que cette femme, elle a été quand même d'abord, je pense que c'est la première. Elle a donné un visage aux ultra-riches. C'est-à-dire qu'avant, on savait que les ultra-riches existaient. C'est-à-dire que cette histoire, elle a éclaté au milieu des années 2000. On savait que les ultra-riches existaient, mais c'était comme une sorte d'entité invisible. On savait que ça existait, mais on les montrait pas, on les voyait pas. Et elle a donné un visage. Elle est rentrée dans la lumière bien malgré elle. C'est quand même quelqu'un qui n'était pas pour une sorte de surexposition. Et elle a été beaucoup réduite à un regard très misogyne, c'est-à-dire que cette femme, elle était très aimable, c'est-à-dire que cette femme qui avait été la fille de son père, la femme de son mari, et qui tout d'un coup va, comme elle dit, sauter de son sarcophage avec la rencontre avec cet homme, cette femme, elle n'a pas été qu'une marionnette entre ses mains, c'est-à-dire que cette femme, elle était, c'est le regard misogyne qu'on veut avoir sur elle, elle était très aimable, c'était une femme d'affaires, très qui avait son empire sur les épaules, enfin qui se passionnait pour le monde des affaires, qui était cultivée, qui était très belle, qui était très intelligente, donc c'était ça aussi qu'il fallait, c'était cette espèce de cliché que je voulais prendre à rebours.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que ça démontre qu'elle a peut-être juste envie de vivre. Elle fait face à la mort parce que il y a eu la mort autour d'elle, son père, son mari, etc. Et qu'elle, sur la fin de sa vie, elle a juste envie de la vivre, cette fin de la vie.
Oui, c'est-à-dire qu'il l'a fait sauter de son sarcophage, il fait éclater tous les carcans. C'est un monde très cloisonné, c'est un monde très codifié. Et elle, ça va l'amuser qu'en fait cette espèce de bordel qu'il va foutre dans ce monde où on n'élève jamais la voix, où tout est tellement codifié. Oui, c'est un monde qui a sa propre morale, qui a sa... Donc du coup, c'était ça qui était intéressant aussi de montrer, et que ça l'amuse beaucoup, en fait, même les secrets qu'il va faire remonter à la surface, même la façon dont il va troubler et plus que ça, l'ordre établi, il le fait avec son accord à elle.
Alors, il, c'est Laurent Lafitte, dans le film, il est impérial dans ce rôle. Je l'ai trouvé absolument excellent. On a même du mal à, c'est une question que j'avais pour vous, on a même du mal à imaginer ce film avec deux autres acteurs que Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. C'est le pairing parfait.
Oui, oui, ça c'est toujours, quand les films sont réussis, en fait, on n'arrive pas à imaginer d'autres actrices et d'autres acteurs, mais c'est vrai qu'ils sont tellement impériaux dans ces rôles, et puis ils ont pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble, ils se connaissaient, ils avaient déjà fait le film de Paul Verhoeven il y a 10 ans, elle, oui, c'était déjà une histoire de domination, d'emprise, et alors mais de façon vraiment très très violente, qui n'était pas que psychologique. Donc ils sont beaucoup amusés et ils sont beaucoup amusés avec ces personnages et ces deux grands bosseurs ils aiment bien travailler de façon artisanale, ils sont pas du genre à préparer dans leur la veille dans leur salle de bain, se dire je vais le jouer comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jouer que quand ils sont quand ils sont sur le plateau, face aux autres interprètes, ils ont vraiment joué ensemble. Mais d'ailleurs aussi avec Marina Foïs ou Raphaël Personnaz. Ouais.
Hein. Oui, absolument. Le casting n'est pas que autour de ces deux. Ouais. Dedans, il y a des thèmes assez importants. Par exemple, vous parlez aussi de la relation de la famille avec la situation pendant la guerre, etc. Et la collaboration. C'est pas à demi-mot. Vous touchez réellement le sujet. C'était important pour vous, ça.
C'était très important parce que de toute façon, on ne peut pas bien raconter cette histoire si on passe ça sous silence. C'est-à-dire que le passé, je raconte un monde qui n'existe plus aujourd'hui parce que tout le monde est mort. Enfin, je veux dire parce que mais un monde qui s'est construit sur les cendres de la collaboration, d'une certaine forme, de l'antisémitisme, et on ne peut pas comprendre la relation entre cette femme et cet homme si on met le passé de côté, de la même façon qu'on ne peut pas la comprendre si ce serait comme de ne pas dire que le mari de la fille de Frédéric dans le film est juive, c'est-à-dire que il y a des corrélations entre tout et évidemment ça m'intéressait de parler de ça parce que c'est quelque chose qui effectivement dans les années 90 et le passé de la France est quand même beaucoup remonté à la surface à cette époque, ce passé qu'on ne voulait pas nécessairement regarder, dont on ne voulait pas forcément parler, et dont François Mitterrand a été le premier quand même à, il n'a pas œuvré pour ça mais il a été un des premiers attaqués justement sur ce qu'il avait pu être pendant la guerre.
Ouais, on se rappelle les livres qui ont été sortis par Claude Péan, je crois. Oui. Si on revient sur le film en lui-même, c'est l'histoire de Madame Bettencourt et L'Oréal, mais vous nommez jamais, c'est d'autres noms, d'autres entreprises. Pourquoi? C'est une question juridique, c'est une question. Vous vouliez pas faire un biopic qui est vraiment un biopic? Enfin, c'est.
C'était pour me donner. Toute la liberté de faire ce que j'avais envie de faire et de raconter ce que j'avais envie de raconter, que je suis, c'est-à-dire ça me permettait de dire je ne suis pas là juste pour illustrer ce que vous avez pu lire dans les journaux et puis de faire un pas de côté par rapport à la véritable histoire, c'est-à-dire d'abord je l'ai resserré dans le temps et puis ces personnages à partir du moment où ils ont d'autres noms, Marianne Farrer, Pierre-Alain Fantin, Frédéric Spielmann, en fait à partir de ce moment-là les gens savent qu'ils vont regarder un film et pas un documentaire et que Laurent Lafitte avait une formule qui était pas mal au moment de la promotion, il disait tout n'est pas vrai mais rien n'est faux. Et je pense que c'est un bel adage par rapport à cette histoire à mon film.
On imagine bien Laurent Lafitte dire ça, hein. C'est une phrase de Laurent Lafitte, hein.
Oui, c'est là, oui. C'est pour ça que je le cite, je voudrais pas me l'approprier sans le mentionner.
Quand vous avez mis la première partie à l'encre sur le papier, vous rendiez compte que ce film pouvait vraiment avoir un succès à l'international? Parce que c'est une histoire un peu universelle qui parle un peu à tout le monde, mais le succès a été quand même joli et bien, il continue à l'international.
Oui, oui, non, mais moi j'étais convaincu que ça allait intéresser les gens, mais j'étais à part les gens qui l'ont fait avec moi, c'est-à-dire les acteurs et l'équipe, j'étais le seul. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à financer ce film. D'ailleurs, on l'a On l'a beaucoup financé grâce à la Belgique et grâce à la Grèce aussi, on a tourné. Mais à l'époque, j'ai quand même entendu des financiers me dire « Les ultra-riches, ça n'intéresse personne, c'est trop clivant. » Donc, moi, j'avais l'espoir de ça. Après, on ne sait jamais, on peut jamais savoir jusqu'à quel point. Mais c'est vrai que ce film, sans la participation de Netflix, puisqu'on n'a aucune chaîne française, le film n'aurait pas pu se faire. Alors qu'en Belgique, on a eu toutes les aides, toutes les télés, toutes les aides régionales et tout ça. Donc, mais c'est vrai que oui, moi, je me disais, il y a forcément quelque chose qui va intéresser les gens. À partir du moment où je me démarquais du fait divers et où j'étais pas justement, comme je disais, dans une simple illustration de ce qu'on avait pu lire ou entendre sur cette histoire.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Et c'est vrai qu'on parle beaucoup en France de l'appui du CNC, du fait que y a ces fonds qui aident le cinéma et la créativité française, mais ça rend pas le financement d'un film plus simple.
C'est-à-dire que le CNC est essentiel, vraiment essentiel. Ça, c'est pas parce que j'ai pas eu l'avance sur recette que j'en ai la moindre amertume. C'est le en fait, ce qui est le faux débat, c'est que on essaye de faire rentrer dans l'esprit des gens que cet argent, c'est à eux, que cet argent ponctionne sur leurs impôts, ce qui est totalement faux. C'est-à-dire que c'est l'argent du CNC, c'est de l'argent qui est pris à la source, c'est-à-dire sur le ticket d'entrée, et qui, c'est les films américains, c'est tous les films qui marchent. C'est-à-dire que Top Gun cartonne en France, c'est génial parce que c'est de l'argent qui va permettre à notre cinéma de d'exister. Donc le CNC, on peut pas faire un film juste avec l'avance sur recette, mais le CNC permet à tous nos films et d'exister, et à cette diversité qui fait la force du cinéma français. C'est un modèle que le monde entier nous envie.
Moi, ça, je vous le confirme, parce qu'à chaque réalisateur à qui je parle, on parle du CNC, c'est un peu ma madeleine de Proust à moi pour en parler, et à chaque fois un peu pour passer un peu la brosse à reluire sur le système, parce que c'est unique,
oui,
c'est
oui,
français,
oui.
C'est unique. Il faut bien comprendre et comme vous le dites, il faut bien comprendre qu'un film au box-office, un Top Gun, un Formula One avec Brad Pitt ou oui. Quoi que ce soit, c'est des films qui financent des films français.
Oui, exactement. Et puis pas que des films, des cinémas, ça, ils aident les salles de cinéma, ils aident le CNC. Enfin, je veux dire, il y a des aides à tous les niveaux. Mais le mauvais débat, celui qu'on voudrait mettre dans la tête des gens et notamment certains partis en France, c'est ouais. que tout ça est pris sur les impôts des Français, ce qui est totalement faux, quoi.
Totalement faux, absolument. Le film a été tourné maintenant il y a probablement 2 ans. Il est sorti l'année ouais. dernière en France. On est à un quart de l'année ou un tiers de l'année en 2026. Vous êtes encore en train d'en parler. C'est dur de s'y remettre à chaque fois.
Non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu le film est sorti le 29 octobre en France, et depuis, je suis allé le présenter dans énormément de pays. En fait, le film a été très demandé, donc je l'ai accompagné. En fait, je pense que là, votre interview est sans doute la dernière que je fais depuis jusqu'à dans très longtemps, je pense. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'autres demandes pour l'instant, mais là, je rentre d'un périple. J'ai fait une tournée en Italie, puis je suis allé à Madrid, puis je suis allé en Allemagne. Je suis rentré de Bavière jeudi dernier. Donc voilà. Non, c'est ce projet, je l'ai tellement porté, et puis son succès, son rayonnement. C'est rare d'avoir un film qui fonctionne autant à l'international, c'est-à-dire qui est autant demandé, vu, et à chaque fois c'est pas des petites sorties, c'est des grosses sorties. C'est pour ça que le minimum que je puisse faire, c'est de l'accompagner. Et d'ailleurs, les acteurs l'ont beaucoup accompagné. Isabelle l'a énormément accompagné le film.
Même en Australie, hein, Isabelle Huppert était en Australie au moment où le film était à Adelaide, je crois. Elle était venue nous parler.
Oui. Ouais, exactement, exactement. Je sais, j'étais le jouet en même temps.
Tout à fait. Et juste pour conclure, c'est dur de se détacher d'un film qui a un tel succès, comme ça?
Non, parce que j'avais déjà écrit, avant la sortie du film, j'avais déjà écrit mon prochain film. Donc, en fait, c'est là, je suis content que ça s'arrête parce que de pouvoir me consacrer complètement, qui est un film qui en plus va être sur Jean Gabin, donc c'est un projet qui va être vraiment très prenant. Mais c'est pas dur. Ça donne des ailes. Le succès, ça donne des ailes, ça donne de la liberté, ça donne des ailes. Donc, c'est que du positif.
D'accord. Bah, je vais vous poser une toute dernière question. Je vais demander un petit service. On est dans l'ascenseur. Vous avez 30 secondes pour me dire pourquoi il faut aller voir votre film.
Il faut aller le voir parce que c'est une histoire qu'on croit connaître, mais qu'on ne connaît pas vraiment. En tout cas, je la raconte d'une autre façon et que ces personnages, il y a quelque chose, je pense, qui a fait le succès, en tout cas en France et dans le pays, c'est quelque chose d'assez libérateur sur le ton du film. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à polisser cette histoire, j'ai pas cherché... Il y a une liberté, il y a quelque chose de politiquement pas correct, et que, voilà, pouvoir traiter tout ça, cette histoire, avec sa part la plus sombre sur le mode de la comédie, je pense que c'est un... Voilà, c'est un privilège. Et puis, pour des acteurs absolument éblouissants, Marina Foïs, Raphaël Personnaz, en plus du duo magique Isabelle Huppert, Laurent Lafitte.
Absolument. Et puis moi, j'ai un petit plaisir, c'est qu'on sera votre dernière interview sur ce film, donc oui, en tout cas pour un bon moment. Donc merci beaucoup.
Merci Christophe. Merci.
J'espère beaucoup qu'on vous aura fait sourire quand même. Merci beaucoup.
Oui, bien sûr. C'était très bien.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
I'm Janice Peterson from SBS World News, and I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day, perhaps on your lunch break.
SBS Learn English helps Australians speak, understand, and connect.